Dans ces conditions-là, le Seigneur leur donnait ce qu'ils lui demandaient. Il aurait été tout prêt à leur donner plus encore, à leur accorder la guérison, en réponse à la prière de la foi, mais il manquait de foi pour la recevoir. Toujours le Seigneur se met à la portée de ses enfants, quelle que soit leur faiblesse. Les malades donc qui désiraient le recevoir de tout leur cœur, auront reçu de lui le fruit de la maladie dans leur désir de conformer leur volonté à celle de Dieu. Ils auraient pu recevoir en outre la guérison, venant leur prouver que Dieu acceptait leur soumission, si elle n'a pas eu lieu, c'est parce qu'il manquait de foi, pour la lui demander. Qu'il te soit fait selon ta foi? Ces mots répondaient encore à cette question-ci, comment dire que la guérison divine apporte avec elle tant de bénédictions spirituelles, quand on voit que le plus grand nombre des malades, guéris autrefois par Jésus, n'en retirèrent qu'un affranchissement temporel de leurs maux, sans donner aucune preuve d'en avoir reçu quelque grâce spirituelle. Ici encore il leur a été fait selon leur foi? Bon nombre de malades après avoir vu la guérison de tant d'autres, prenaient confiance en Jésus, justement assez pour être guéris, et Jésus leur accordait leurs demandes, sans y ajouter d'autres grâces pour leur âme. Avant l'ascension, le Seigneur n'avait pas aussi libre entrée, qu'est présent dans le cœur de l'homme, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Jean 7, 39. La guérison des malades n'était guère alors qu'une grâce pour le corps. Ce ne fut que plus tard, dans l'économie de l'esprit, que la conviction de péché suivie de la confession des péchés devint pour le croyant la première grâce à recevoir, la condition essentielle pour obtenir la guérison, comme nous le dit clairement Paul dans son épître aux Corinthiens, ainsi que Jacques dans son épître aux 12 tribus dispersées. 1 Corinthiens 11, 31,32 Jacques 5, 16 de la mesure de notre foi, dépend donc le degré de grâce spirituelle qu'il nous sera possible de recevoir soit pour sa manifestation extérieure, soit surtout pour la portée qu'elle aura sur notre vie intime. Nous recommandons donc à tout malade qui voudrait recevoir la guérison et connaître ainsi Jésus comme le divin guérisseur, de ne pas se laisser arrêter par son incrédulité, de ne pas douter des promesses de Dieu, mais d'être ferme dans la foi, rendant à Dieu la gloire qui lui est due. Il vous sera fait selon votre foi? Si de tout votre cœur, vous vous confiez au Dieu vivant, vous serez abondamment béni, n'en ayez aucun doute. Toujours le rôle de la foi est de saisir précisément ce qui paraît impossible ou étrange, considéré au point de vue humain. Consentons à devenir fous à cause de Christ. 1 Corinthiens 4, 10 Ne craignons pas de passer pour des esprits faibles aux yeux du monde et des chrétiens encore ignorants de ces choses, parce que sur l'autorité de la Bible nous croyons ce que d'autres trouvent encore inadmissible. Ne vous laissez donc point ébranler dans votre attente lors même que Dieu tarderait à vous exaucer ou que la maladie viendrait à s'aggraver. Une fois que vous avez posé le pied sur le roc inébranlable de la parole de Dieu et que vous avez prié Jésus de manifester sa toute puissance dans votre corps, parce que vous êtes un des membres de son corps, et le temple du Saint-Esprit, persévérez à croire en lui avec la ferme assurance qu'il s'est chargé de vous, qu'il est responsable de votre corps, et que sa vertu de guérison viendra le glorifier en vous. 22e Jouir. Le chemin de la foi. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité, Marc 9, 24. Pour des milliers d'âmes ces mots ont été secours et force dans la recherche du salut et de telles autres grâces de Dieu. Remarquons que c'est à l'occasion d'un enfant malade qu'ils furent prononcés, qu'ils étaient le cri de la foi, recourant à Jésus pour obtenir la guérison. Ils nous font voir que dans une même âme, peuvent se trouver en lutte la foi et l'incrédulité, et que ce n'est pas sans avoir à combattre que l'on en vient à croire en Jésus, en sa toute puissance pour guérir les malades. Chacun pourra trouver là l'encouragement nécessaire pour réaliser la puissance du Seigneur. Je m'adresse ici à ceux qui ne doutent pas de la volonté de Jésus de guérir les malades, sans l'emploi des remèdes terrestres, mais qui manquent de hardiesse pour saisir eux-mêmes la guérison. Ils croient à la puissance divine de Jésus, ils croient d'une manière générale à sa bonne volonté de guérir, ils ont acquis, soit par les Écritures, soit par l'exemple de diverses guérisons opérées de nos jours, la conviction intellectuelle que le Seigneur pourrait les secourir, eux aussi, mais ils reculent aussitôt qu'il s'agit de saisir la guérison et de dire avec foi « Le Seigneur m'a exaucé, je sais que je suis guéri ». C'est pour eux que l'étude de ce récit sera d'un grand secours. Remarquez d'abord que sans la foi, nul ne peut être guéri. Lorsque le père de l'enfant malade dit à Jésus « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous », que lui répond Jésus « Si tu peux croire ». Jésus avait la puissance de le guérir et il était prêt à le faire, toutefois c'est sur cet homme qu'il rejette la responsabilité si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Pour obtenir de Jésus votre guérison, il ne suffit pas de prier. La prière sans la foi est aussi sans efficace. C'est la prière de la foi qui relèvera le malade. Si vous avez déjà demandé au Seigneur votre guérison, ou si d'autres l'ont demandé pour vous, il faut, avant de sentir aucun changement, que vous puissiez dire avec foi, sur l'autorité de la parole de Dieu, « J'ai l'assurance d'être exaucé et de recevoir la guérison ». Avoir la foi, c'est dans votre cas abandonner votre corps entre les mains du Seigneur et le lui remettre entièrement. La foi reçoit la guérison comme une grâce spirituelle qui vient du Seigneur lors même que le corps n'en éprouverait encore aucun changement, elle en rend témoignage et glorifie Dieu. Mon âme, bénit l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, 3 pour guérir, c'est cette foi-là que Jésus demande. Comment obtenir ce degré de foi? Exposez à Dieu l'incrédulité qui se trouve encore en vous et comptez sur lui pour en être délivré. La foi n'est pas une monnaie qui doit acheter du Seigneur votre guérison. C'est lui-même qui veut éveiller et développer en vous la foi nécessaire. Viens au secours de mon incrédulité, s'écrie le père de l'enfant. Son désir ardent était de ne pas manquer de foi. Vous aussi, avouez au Seigneur toute la peine que vous avez encore à le croire sur parole, dites-lui que vous ne voulez plus de cette incrédulité, que vous vous remettez à lui, ne voulant écouter que sa parole. Ne perdez pas de temps à déplorer votre incrédulité, mais regardez à Jésus. La lumière de sa face vous fera trouver la faculté de croire en lui. Psaume 44, 4 Il vous appelle à vous confier en lui, écoutez-le, et par sa grâce la foi triomphera en vous. Dites-lui Seigneur, je sens encore de l'incrédulité en moi, j'ai de la peine à réaliser que je suis assuré de ma guérison, parce que le possède celui qui l'opère. Et pourtant je veux vaincre cette incrédulité. Toi, Seigneur, tu me donneras la victoire. Je veux croire. Oui, Seigneur, je crois, car tu viens au secours de mon incrédulité. C'est quand nous sommes en communion intime avec Jésus, et que notre cœur répond à son cœur, que l'incrédulité est domptée, vaincue. Il importe aussi de témoigner de la foi qu'on a. Soyez résolus à croire ce que le Seigneur vous dit, à croire sur tout ce qu'il est. Appuyez-vous avec force sur ses promesses, la prière de la foi sauvera le malade. Jacques 5, 15 Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26 Regardez à Jésus, qui a porté nos langueurs Ésaïe 53, 4 et qui a guéri tous ceux qui allaient à lui, comptez sur le Saint-Esprit, pour manifester dans votre cœur la présence de Jésus, qui est actuellement dans le ciel, et pour faire passer dans votre corps aussi la puissance de sa grâce. Louez le Seigneur, sans attendre de vous sentir mieux ou d'avoir plus de foi. Louez-le, disant avec David Éternel, « Mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Psaume 30, de la guérison divine, est une grâce spirituelle qu'il faut saisir spirituellement et par la foi, avant d'en éprouver l'effet dans le corps. Saisissez-la donc et rendez grâce à Dieu. Quand le Seigneur Jésus eut commandé au démon de sortir de l'enfant, il l'agita avec violence, si bien qu'on crut qu'il était mort. Si donc votre maladie, ne cédez pas tout de suite, si votre incrédulité et Satan cherchaient à reprendre le dessus, ne les écoutez pas, mais attachez-vous à Jésus le guérisseur, et certainement il vous guérira. 23e jour. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 15,19, 20. La Bible nous dit que les croyants sont ensemble le corps de Christ. Généralement, on prend ces mots dans leur sens spirituel, tandis que la Bible nous demande positivement si nous ne savons pas que nos corps sont les membres de Christ. De même, quand la Bible nous parle de l'habitation, en nous du Saint-Esprit ou de Christ, nous limitons leur présence à la partie spirituelle de notre être, à notre âme ou à notre cœur. Toutefois la Bible dit expressément « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? » Quand l'Église comprendra que le corps, aussi à part à la rédemption par Christ, et qu'il doit être ramené, par là à sa destination première, c'est-à-dire à être la demeure de l'Esprit, à lui servir d'instrument, et à être sanctifié par sa présence, elle reconnaîtra aussi toute la place que tient la guérison divine dans la Bible et dans le conseil de Dieu. Le récit de la création nous dit que l'homme est composé de trois parties. Dieu tira d'abord le corps de la poussière de la terre, Après quoi il souffla en lui un souffle de vie, il fit passer en lui sa propre vie, son esprit. Par l'union de l'esprit à la matière, l'âme devint âme vivante. L'âme, qui est proprement l'homme, se trouve donc placée entre le corps et l'esprit servant à les relier ensemble. Par le corps, l'âme se trouve en rapport avec le monde extérieur, par l'esprit avec le monde invisible et avec Dieu. Par le moyen de l'âme, l'esprit pouvait soumettre le corps à l'action des puissances célestes et par là le spiritualiser, par le moyen de l'âme, le corps aussi pouvait agir sur l'esprit et l'attirer vers la terre. L'âme, sollicitée par l'un et l'autre, devait donc choisir entre la voix de Dieu, lui parlant par l'esprit, ou la voix du monde lui parlant par les sens. Cette union de l'esprit et du corps offrait un ensemble merveilleux et unique dans la création, l'homme était par là même le joyau de l'œuvre de Dieu. Il existait déjà d'autres créatures, dont les unes étaient, comme les anges, tout esprit, sans corps matériel, et les autres, comme les animaux, n'étaient que chair, possédant un corps animé d'âme vivante, mais dépourvu d'esprit. L'homme était destiné à montrer que le corps matériel, gouverné par l'esprit, était susceptible d'être transformé par la vertu de l'esprit de Dieu, et d'être ainsi amené à participer à la gloire céleste. Nous savons ce que le péché et Satan ont fait de cette possibilité de transformation graduelle. Par le moyen du corps, l'esprit fut tenté, séduit et devint l'esclave des sens. Nous savons aussi ce qu'a fait Dieu pour annuler l'œuvre de Satan et atteindre le but de la création. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8 Dieu a formé un corps à son Fils Hébreux 10, 5 La parole a été faite chair. Jean 1, 14 En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9 Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, 4 Et maintenant Jésus, ressuscité d'entre les morts, avec un corps aussi franc de péché, que son esprit et son âme, communique à notre corps la vertu de son corps glorifié. La Sainte Seine est la communion au corps de Christ, et nos corps sont les membres de Christ. 1 Corinthiens 1, 9, 6, 15, 12, 27. La foi nous met en possession de tout ce que nous a acquis la mort de Christ et sa résurrection, et ce n'est pas seulement dans notre âme et notre esprit que la vie de Jésus ressuscité manifeste dès ici-bas sa présence, c'est aussi dans le corps qu'elle veut agir selon la mesure de notre foi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Un grand nombre de croyants se figurent que le Saint-Esprit vient habiter notre corps comme nous habitons une maison. Rien de pareil. Je puis habiter une maison sans que pour cela elle fasse partie de mon être, je puis la quitter sans avoir à en souffrir, il n'existe aucun lien vital entre moi et ma maison. Il n'en est pas de même quant à la présence de notre âme et de notre esprit dans notre corps. La vie de la plante habite et anime chacune de ses parties, et notre âme, notre esprit ne se borne pas à habiter telle partie du corps, le cœur, la tête, ou telle autre, mais il pénètre partout, jusqu'à l'extrémité des membres les plus infimes. L'âme remplit de sa vie le corps tout entier, si bien que dans chaque molécule du corps la vie atteste la présence de l'âme. C'est ainsi pareillement que le Saint-Esprit vient habiter notre corps. Il le pénètre tout entier. Il nous anime et nous possède infiniment plus que nous ne pouvons nous le figurer. Comme le Saint-Esprit apporte à notre âme et à notre esprit la vie de Jésus avec sa sainteté, sa joie et sa force, de même il vient aussi communiquer au corps malade toute la vitalité de Christ, aussitôt que la foi étend la main pour la saisir. C'est quand le corps est entièrement soumis à Christ, crucifié avec lui, et qu'il renonce à toute propre volonté et indépendance pour ne plus vouloir être que le temple du Seigneur, c'est alors que l'Esprit Saint manifeste dans le corps la puissance du Sauveur ressuscité. Alors seulement nous pouvons glorifier Dieu dans notre corps, en lui laissant toute liberté de montrer sa puissance en nous, de faire voir comment il sait affranchir son temple de la domination de la maladie, du péché et de Satan. 24e jour. Le corps pour le Seigneur. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, mais Dieu détruira l'un comme les autres, le corps néanmoins n'est, pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 1 Corinthiens 6, 13 Un des théologiens les plus savants a dit que la corporéité est le but que Dieu s'est proposé. Comme nous l'avons vu, c'est là en effet ce que Dieu a réalisé en créant l'homme. C'est là ce qui fait l'étonnement et l'admiration des habitants du ciel lorsqu'ils contemplent la gloire du Fils. Revêtu d'un corps d'homme, Jésus est pour toujours monté sur le trône de Dieu pour partager la gloire de Dieu. C'était là ce que Dieu voulait, on finira par le reconnaître quand l'humanité régénérée formera le corps de Christ, sera réellement le temple du Dieu vivant, 2 Corinthiens 6, 16 et que toute la création, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, aura part à la gloire des enfants de Dieu. Le corps matériel sera, alors entièrement sanctifié, glorifié par l'Esprit, et ce corps ainsi spiritualisé sera la plus haute gloire du Seigneur Jésus et de ses rachetés. C'est en prévision de cet état nouveau que le Seigneur attache une grande importance à voir notre corps habité et sanctifié dès ici-bas par son Esprit. Les croyants comprennent si peu cette vérité qu'ils ne s'en occupent guère et cherchent encore moins à obtenir l'action de l'Esprit Saint dans leur corps. Aussi beaucoup d'entre eux, croyant que ce corps leur appartient, s'en servent à leur gré. Sans comprendre combien la sanctification de l'âme et de l'esprit dépend du corps, ils ne saisissent pas toute la force que contiennent ces mots le corps, et pour le Seigneur aussitôt qu'on les reçoit avec obéissance. Le corps est pour le Seigneur? Que signifie cette parole? L'apôtre venait de dire les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, mais Dieu détruira l'un comme les autres? Le manger et le boire offrent aux chrétiens l'occasion de réaliser cette vérité. Le corps est pour le Seigneur? Il faut en effet qu'il apprenne à manger et à boire à la gloire de Dieu. C'est par le manger que fut ramené le péché et la chute. C'est aussi par le manger que le diable chercha à tenter notre Seigneur. Jésus lui-même sanctifia alors son corps en ne mangeant qu'à l'invitation de son Père. Matthieu 4, 11. Un grand nombre de croyants négligent de veiller sur leur corps, d'observer une sainte sobriété, de peur qu'ils ne deviennent impropres à servir Dieu. Jamais le manger et le boire ne devraient entraver la communion avec Dieu, leur but est au contraire de la faciliter en maintenant le corps dans son état normal. L'apôtre parle aussi de la fornication, ce péché qui souille le corps, et qui se trouve en opposition directe, avec ces mots « le corps est pour le Seigneur ». Il ne s'agit pas là, seulement de l'impudicité en dehors du mariage, mais dans le mariage même, de toute volupté, de tout défaut de sobriété en tous genres, de tout ce que condamnent ces mots « votre corps » est le temple du Saint-Esprit 1 Corinthiens 6, 19. Le corps est pour le Seigneur. De même tous ceux qui concourent à l'entretien du corps, à le vêtir, à le fortifier, à le délasser par le sommeil, ou à lui offrir quelques jouissances, tout doit être placé sous le contrôle du Saint-Esprit. Ainsi que le temple de l'ancienne alliance avait été construit uniquement pour Dieu et son service, notre corps aussi a été créé, pour le Seigneur et pour lui seul. L'un des principaux bienfaits de la guérison divine sera donc de nous apprendre que notre corps doit être affranchi du joug de notre volonté propre, pour devenir la propriété du Seigneur. Dieu n'accorde pas la guérison à nos prières avant d'avoir atteint le but pour lequel il avait permis la maladie. Il veut que cette discipline nous emmène à une communion plus intime avec lui, il nous fait comprendre que nous avons considéré notre corps comme notre propriété, tandis qu'il appartient au Seigneur et que le Saint-Esprit veut en sanctifier tous les actes. Il nous porte à saisir que si nous soumettons sans réserve notre corps à l'influence du Saint-Esprit, nous éprouverons en nous sa puissance et qu'il nous guérira en faisant passer dans notre corps la vie même de Jésus. Il nous amène enfin à dire avec conviction « le corps est pour le Seigneur ». Il est des croyants qui recherchent la sanctification, mais seulement pour l'âme et l'esprit, dans leur ignorance, ils oublient que le corps et tout son système nerveux, que la main, l'oreille, les yeux, la bouche sont directement appelés à témoigner de la présence et de la grâce de Dieu en eux. Ils n'ont pas accordé assez d'attention à ces mots « vos corps sont les membres de Christ ». Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 1 Corinthiens 6, 15 et Romains 8, 13 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible. 1 Thessaloniciens 5, 23 au quel renouvellement s'opère en nous quand par son attouchement le Seigneur guérit notre corps, qu'il en prend possession, qu'il en devient par son esprit la vie et la santé. C'est avec un sentiment inexprimable de sainteté, de crainte et de joie, que le croyant peut alors offrir son corps en sacrifice vivant, pour en recevoir la guérison, et qu'il prend pour devise ces mots « le corps est pour le Seigneur ». 25e jour. Le Seigneur est pour le corps. Le corps néanmoins naît, pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 1 Corinthiens 6, 13 Dans les rapports de Dieu avec l'homme, il y a réciprocité. Ce que Dieu a été pour moi, je dois à mon tour l'être pour lui. Et ce que je suis pour lui, il veut de nouveau l'être pour moi. Si dans son amour il se donne tout à moi, c'est pour qu'avec amour je me donne tout à lui. C'est dans la mesure où je lui abandonne plus ou moins réellement tout mon être, qu'il se donne aussi plus réellement à moi.